13h31 sur France Inter, la marche de l'histoire, c'est avec Jean Lebrun.
C'est donc si passionnant l'histoire.
C'est la science par excellence qui nous enseigne le vrai gouvernement des hommes et du monde.
Oum Kalsoum.
Le tout Paris du show business se bousculait à prix d'or pour entrer dans l'Olympia. Il y avait des gens qui étaient dans un délire complet. C'est ce qu'on appelle en langue arabe le tarab. Le tarab, c'est l'émoi lyrique, c'est-à-dire c'est ce qui arrive quand la chanson ou la musique vous fait perdre complètement la tête. Et moi, au milieu de tout ça, j'étais évidemment extrêmement ému, car finalement, cette chanteuse, elle devenait une réalité.
C'est en novembre 1967 qu'Oum Kalsoum donne à Paris les deux seuls spectacles qu'elle ait jamais accordés à l'Europe occidentale. Le colonel Nasser vient d'être vaincu par Israël et il a délégué en ambassadrice auprès de De Gaulle celle qu'on surnomme la quatrième pyramide d'Égypte. L'Égypte, qui vient d'être défaite, veut garder sa primauté sur le monde arabe et Oum Kalsoum l'y aide grandement. Depuis les années 1930, elle chante chaque premier jeudi du mois de la saison à l'antenne de la Voix du Caire. Progressivement, il a fallu accroître la puissance des émetteurs, car tous, du Golfe à la Méditerranée et jusqu'au Maroc et à l'océan Atlantique, la réclament. Si elle émeut tant, c'est par l'amplitude exceptionnelle de sa voix, mais aussi parce qu'elle réunit au principe invariant du patrimoine musical d'Égypte, religieux et savant, les ressources du monde nouveau. Elle sait jouer sur l'ensemble de ses registres. Les Français, quand ils la reçoivent, cherchent des références qui leur soient familières. Viennent à l'époque les noms de la Calas et de Piaf. Oum Kalsoum a dans le cadre égyptien, toutes choses égales, un pédigré classique comme la Calas, mais son vibrato est celui de Piaf. Le professeur Jacques Berck signalait en outre, à l'époque, qu'elle chantait les poètes les plus subtils de son temps, une Calas qui serait aussi Piaf peut-être, mais qui chanterait du Dubellay et du Valéry.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Frédéric Lagrange, bonjour.
Bonjour.
Avec Céline Loriou, vous nous avez décidé à consacrer cette émission à Oum Kalsoum en ce 8 mars. Pourtant, c'est une femme à l'origine très traditionnelle et qui reprend la psalmodie du Coran. Il est vrai que quand le prophète arrive à Médine, les femmes l'ont accueillie en chantant.
C'est une femme de la campagne. Elle est née à la campagne, probablement d'un milieu d'hymnodes, de chanteurs d'hymnes religieux, ruraux. Elle commence sa carrière dans le cadre rural. Elle sera connue dans sa province avant de monter en ville. C'est un village du delta d'Égypte, de la province de la Dahleya. Et elle va donner avec son jeune frère, elle va donner avec son père, des concerts dans lesquels il n'y a pas d'accompagnement musical, dans lesquels il y a uniquement les voix humaines.
Alors on va entendre sa voix et on va l'entendre évoquer son père, qui revenait sans cesse d'ailleurs dans sa conversation.
Tout chanteur doit apprendre le Coran. Ce grand livre qui apprend à bien prononcer, à articuler les mots clairement. Mon premier professeur, oui, c'était mon père. Pour faire face à la concurrence, elle a commencé à prendre à mon frère la psalmodie du Coran. Et un jour, il m'a trouvé jouant à la poupée tout en psalmodiant le tawashir qu'il avait appris à mon frère. Il est resté silencieux. Puis il m'a dit de venir avec lui, c'est-à-dire de l'accompagner pour psalmodier le Coran. Moi, je ne voulais pas. Il m'a dit, viens, je te donnerai une ma'labiya, une friandise égyptienne.
Allez, Frédéric Lagrange, au devant de notre ignorance psalmodiée, ce n'est pas l'appel à la prière du muezzin.
Non, la psalmodie est la cantillation du texte coranique lui-même. Et dans chaque partie du monde musulman, on remarque qu'il y a des passages, des ressemblances entre le système modal musical utilisé pour la musique urbaine profane et pour le registre religieux. Ce qui veut dire que la cantillation du Coran, en fait, peut fonctionner pour un musicien comme une sorte de grande encyclopédie, de grand dictionnaire de phrases musicales, d'idées musicales, d'idées mélodiques qui sont susceptibles d'être réutilisées à leur tour dans le cadre, par exemple, d'une improvisation sur une pièce profane.
Donc l'islam est générateur d'une esthétique musicale. C'est un métier que de psalmodier et c'est un métier pour une femme.
C'est un métier pour une femme au début du XXe siècle. Il se trouve que la radio égyptienne, à partir du moment où il sera créé une chaîne radio Coran dans laquelle il y aura diffusion d'hymnes religieux et de cantillations du Coran, ne fera pas appel aux femmes pour des raisons qui resteraient à déterminer et le métier va peu à peu disparaître et disons que la cantillation féminine sera une cantillation privée, mais contrairement au début du XXe siècle où on pouvait, pour une fête locale, faire appel à une femme pour faire la cantillation, disons que ce métier va se perdre. Mais Moukalsoum est formé. De même que d'ailleurs les grands vocalistes juifs sont également formés à la cantillation dans le cadre de la synagogue, les grands vocalistes musulmans sont formés à la cantillation coranique pour la plupart d'entre eux.
Vous parliez de la radio, on n'en est pas encore au temps de la radio, mais on est au temps du disque. On n'imagine pas que d'abord les vieux maîtres de la tradition savante ont été saisis par les grandes compagnies de disques dès les années d'avant la guerre de 14, et dans les années 1920, quand elle survient dans la capitale égyptienne, c'est l'explosion du disque.
Les Anglais et les Allemands, Gramophone et Odéon, décident de partir à la conquête du marché oriental dès 1903. Et dans les années d'avant la Première Guerre mondiale, le disque 78 tours va essayer de saisir la musique telle qu'elle est, en employant par exemple quatre faces entières pour pouvoir enregistrer une œuvre. Oum Kalsoum vient un peu plus tard au Caire. Elle vient au début des années 20, lorsque l'industrie du disque est devenue l'opérateur le plus important sur la scène musicale égyptienne. C'est la compagnie de disques qui décide ce qui va être acheté par les gens, quels sont le type de chants qui sont susceptibles d'être commercialisés. Elle arrive, Albert Lévy d'Odéon va la mettre en contact avec un certain nombre de compositeurs. Par ses concerts, elle-même en rencontre d'autres. Une effervescence est à l'œuvre dans les années 20, mais une effervescence dans laquelle d'abord Odéon puis Gramophone vont être au centre et vont décider en quelque sorte les contours que va prendre la musique.
Alors la rencontre avec les compositeurs, la rencontre avec les auteurs, il faut que vous citiez un ou deux noms qui ont été très importants tout au long de la carrière d'Oum Kalsoum, elle est en partie déterminée par l'offre des demandes de disques.
Exactement. Les maisons de disques font, par exemple, se rencontrer Oum Kalsoum et le grand compositeur Daoud Hosni, ultérieurement les compositeurs Zakari Ahmed, le compositeur Riyad Essombati. Les deux derniers vont devenir fondamentaux dans sa carrière. Également les paroliers. Alors, il semble que le poète Ahmed Rami, qui joue un rôle absolument déterminant dans sa vie, c'est l'auteur de la plupart de ses poèmes en langue dialectale. Ahmed Rami est, au début de sa carrière, plutôt un poète de langue classique, d'arabe classique. Il l'encoute dans un concert, il tombe follement amoureux d'elle, décide de travailler pour elle, et c'est elle qui lui imposera de écrire principalement en langue dialectale.
Alors, vous qui êtes agrégé d'arabe, qui enseignez à la Sorbonne, vous pouvez marquer une certaine irrévérence au maître Jacques Berck, mais il n'a peut-être pas complètement tort quand il dit « c'est Piaf qui chante sur les poèmes de Valéry, de Paul Valéry ».
Alors, parler sur des poèmes de Paul Valéry impliquerait que Oum Kalsoum choisit parmi ses contemporains les poètes de l'avant-garde. Disons qu'elle choisit des poètes qui sont compatibles avec ce que l'on peut chanter et ce que l'on peut chanter en termes d'amour. Parce qu'il ne faut pas oublier que Oum Kalsoum est à la base un personnage historique. Madame Oum Kalsoum Ibrahim El Biltegi, son nom de carte d'identité, de passeport. Et d'autre part, c'est ce personnage fantastique qui surgit sur scène et qui raconte l'histoire d'un amour impossible depuis le début de sa carrière. Donc, le mal d'aimer, la douleur d'amour, la relation impossible est un thème en quelque sorte obligé pour tous ces poètes dont elle utilise soit des œuvres déjà publiées, soit finalement elle impose une sorte d'image de créature mythique dans le cadre duquel on doit écrire.
Je t'attendrai, je serai en attente. C'est une chanson de Zakaria Ahmed que vous citiez il y a un instant, qui date d'une période un peu plus tardive, du début des années 1940. Je t'attendrai et un feu me tourmentera. Je compte seconde après seconde le temps de ton absence, mais tu ne reviens pas. J'aurais aimé ne jamais aimer. Vous critiquerez ma traduction après que vous aurez commenté la chanteuse. Commentaire, Frédéric Lagrange, on croit comprendre quand on est ignorant qu'il y a une superposition peut-être de différentes versions.
Ce que l'on vient d'entendre est en fait la conclusion qui se répète à la fin de chaque couplet de cette chanson. Ce qui est remarquable, c'est cette façon de dire « Yerit »,« Oh, comme j'aurais aimé », qui est répétée 5 fois, 6 fois, 10 fois, 15 fois, chaque fois avec une petite variation subtile. Et c'est dans ces variations, dans cette capacité à l'improvisation ornementale, mais aussi à l'ornementation créatrice, que se déroule, que se joue le génie d'Oum Kalsoum.
Comme j'aurais aimé ne jamais avoir aimé. Mais ça, c'est la grande tradition savante de la musique égyptienne.
C'est la rencontre entre la tradition savante de la musique égyptienne et une volonté de modernisation, d'inventer un nouveau moule, une nouvelle forme qui sera la chanson kalsoumienne par excellence. Cette chanson qui dure une quarantaine de minutes dans les années 50 et qui peut aller jusqu'à une heure, voire une heure et demie au fur et à mesure que sa carrière se développe et que les parties instrumentales se feront plus longues pour éventuellement reposer sa voix.
Comme le malheureux Bruno Cocatrix, quand elle vient à l'Olympia en 67, n'a pas du tout compris ça. Il s'étonne qu'elle ne propose que 2 chansons. Elle va finalement en donner 3 et ça va durer entre 5 et 8 heures. Les souvenirs des participants ne sont pas très clairs. Mais alors attendez, là on n'est plus du tout dans les exigences qu'imposait le disque 78 tours dont vous nous parliez pour les années 20 et 30. Parce que là, c'était des formats de 8 minutes dans les disques 78 tours.
Exactement. La domination de l'industrie du 78 tours prend fin au milieu des années 30 quand va arriver la radio. Et va arriver le cinéma. Et donc il y aura désormais une sorte de dichotomie entre, d'une part, la chanson de type cinéma, qui sera la continuation de la chanson courte, celle qu'on avait dans les 78 tours, qui va se développer mais restera sur un moule de type 5 à 8 minutes, et d'autre part, la chanson de concert, la chanson kalsoumienne, qui ne peut s'exprimer que justement grâce à la radio, et qui ne sera pas enregistrée de façon régulière avant le début des années 50, tout simplement parce que le fil magnétique, le fil Marconi, et puis ensuite la bande magnétique qui vient d'Allemagne, qui est très onéreuse au début des années 50, demande un gros effort d'investissement de la part de la radio égyptienne. Mais ça, c'est le vrai concert kalsoumien avec la chanson composée de généralement quatre couplets et un refrain, et ces quatre couplets et un refrain avec les redites et avec les improvisations prend généralement une heure pour une pièce. Et une pièce qui est complète, dans laquelle il y a à la fois des séquences avec un rythme, des séquences en rythme libre, des séquences instrumentales, des parties composées, des parties improvisées. C'est le repas complet.
La radio, c'est très important. C'est dès les années 30 que le premier jeudi de chaque mois de la saison, ça ne concerne pas l'été, a un concert.
Il y aura effectivement un concert à l'unique chaîne de radio Le Caire à partir des années 30, effectivement tous les premiers jeudis du mois, et le mythe se met en place. Il y a déjà une présence artistique égyptienne à travers le monde arabe, mais ceci va aider à la renforcer et à créer ce phénomène d'une attente du concert d'Oum Kalsoum du premier jeudi du mois.
Omniprésence, mais en même temps, c'est le propre de toutes les stars, elle dit qu'elle vit dans un certain retrait. Voici une interview d'elle.
J'aime beaucoup recevoir mes amis, mais j'aime aussi avoir une vie discrète et pas trop exubérante. Pour que l'art soit apprécié, il faut que la vie de l'artiste soit digne et exemplaire. Si on banalise sa vie, on perd son image et sa réputation d'artiste. Pour protéger son art, cela demande beaucoup de privations, c'est-à-dire se priver de ce que l'on voudrait faire comme tout le monde. Je protège mon art à tel point que je lui sacrifie ma santé.
عشان أقف قدام الناس أديله الحاجة اللي أنا أحب إن أنا أديها له.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Qui en ce 8 mars parle avec Frédéric Lagrange d'Oum Kalsoum, qui, de la chanteuse aux mœurs douteuses, elle aurait pu correspondre à cette image, fait une dame avec sa réserve, sa pudeur, sa discrétion, dit-elle.
Oum Kalsoum, c'est l'alliance à la fois d'une très grande intelligence artistique et d'une très grande intelligence sociale. Au XIXe siècle, les chanteuses étaient des almées.
Qu'est-ce que c'est une almée, Frédéric Lagrange ?
Une almée était tout d'abord une chanteuse supposée proposer ses performances pour les femmes, mais qui pouvait également se produire devant les hommes et qui pouvait fréquenter des hommes avec tout ce que le terme fréquenter est susceptible d'impliquer. Il y a pour Oum Kalsoum un enjeu au début du XXe siècle, et qui est d'imposer une nouvelle image de la musicienne. Les musiciennes sont déjà tout à fait présentes dans l'espace, mais d'abord, les musiciennes ont un répertoire qui est moins estimé, qui est considéré comme inférieur au répertoire masculin. D'autre part, elles ont à tort ou à raison la réputation d'avoir des mœurs quelque peu légères. Oum Kalsoum va imposer l'idée qu'une femme peut être au même niveau, voire supérieure dans ses performances aux hommes, qu'elle devienne la référence musicale ultime. D'autre part, elle impose l'idée qu'une femme peut parfaitement être une musicienne respectable. D'où l'aspect quelque peu conservateur de son discours. Mais cet aspect conservateur est aussi une nécessité politique et sociale pour elle. C'est la condition de sa domination sans concurrence sur le domaine de la scène musicale arabe.
Alors, elle fait preuve de beaucoup de ruses. Dirigeant le syndicat des musiciens, elle va écarter ses concurrentes de la radio où elle doit être reine. Elle fait aussi preuve de peut-être pas mal de dissimulation. Sans doute y a-t-il une chambre secrète dans la quatrième pyramide, puisque c'est son surnom.
Il y a nécessairement une chambre secrète, et en dépit de son mariage extrêmement tardif en 1954 avec son propre docteur, il n'est pas évident qu'Oum Kalsoum ait eu un très grand intérêt pour le docteur Hefnaoui. Mais cette partie privée de la vie ne doit en aucune manière apparaître au public précisément parce que nous sommes encore dans cette phase de construction de la légitimité des femmes sur la scène musicale en tant que personne que l'on peut prendre au sérieux. Et on disait qu'elle était à la fois la Callas et Edith Piaf, mais les la Callas et Edith Piaf sans leur dimension scandaleuse. Il y a sans aucun doute une chambre secrète, mais cette chambre secrète, elle ne restera que murmure, elle ne restera que rumeur. Ce sont des parties de la pyramide qu'elle ne veut pas que l'on aille visiter, et surtout ce sont des chambres de la pyramide dont il faut comprendre qu'elles ne sont certainement pas les plus intéressantes dans le phénomène Oum Kalsoum.
Alors elle cherche à répondre à une demande sociale, vous parliez de celle des femmes qui vont voir en elle une sorte d'incarnation de la dame de demain. La demande sociale, c'est aussi la demande des milieux nationalistes. Elle a chanté pour le roi Farouk, le colonel Nasser avec qui elle a fait connaissance dès 1948. Quand il a pris le pouvoir, le lui en a pas voulu. Et elle a fait allégeance au colonel Nasser et au régime de Nasser.
Fondamentalement, ils viennent du même milieu et ils illustrent la même capacité qu'a cet élément rural égyptien de s'élever au niveau international. Elle prouve qu'une femme née à la campagne, qui a eu la chance d'aller à l'école coranique avec son frère, qui n'était certainement pas la chance de toutes les petites filles de son époque, peut s'installer en ville, peut s'affranchir de la tutelle de son frère et de son père, peut apprendre le français, peut s'attacher les services de musicien et de poète et dominer absolument, totalement la scène intellectuelle et la scène artistique égyptienne entre les années 30 et sa mort en 1975. Nasser, c'est la même chose. Nous sommes dans des trajectoires qui sont en quelque sorte tout à fait parallèles. Il était donc inévitable que ces atomes crochus finissent par se rencontrer et qu'elle soit, après avoir été dans une certaine mesure la voix de l'Égypte royale, qu'elle soit de façon plus convaincante et plus naturelle et sans doute plus sincère pour elle, la voix de l'Égypte nassérienne.
De toute façon, vous insistez toujours sur ce thème, notamment dans votre livre « Musique d'Égypte », c'est chez Actes Sud, Frédéric Lagrange. La primauté égyptienne, avant même le panarabisme nassérien, existait. Les artistes, avant même le disque, faisaient des tournées. Et elle-même, elle a fait beaucoup de tournées.
Elle-même fait des tournées et effectivement, elle s'inscrit dans ce rayonnement de la musique égyptienne qui existe depuis la fin du 19e siècle. Le grand Cheikh Salem Arghez, il fait des tournées à Tunis et à Beyrouth. Les chanteurs égyptiens se produisent partout dans le monde arabe et elle fait des tournées à Jérusalem, à Yafa, à Bagdad, à Beyrouth, dès les années 30. Ce qui est évident, c'est que à partir du moment où il y a une union entre l'Égypte et la Syrie, ces concerts à Damas et ces concerts à Beyrouth vont prendre une tonalité, une teinte, une signification différente dans les années 56, 57, 58. Et par exemple, elle ne retournera plus jamais à Damas après la rupture entre l'Égypte et la Syrie. Mais elle continuera à chanter au Liban et elle ira en Libye, elle ira au Maroc, elle ira en Tunisie et bien entendu Paris.
Et elle aurait bien aimé aller à Tel Aviv si la guerre de 1967 avait été gagnée par Nasser.
L'arme la plus spectaculaire de Nasser, c'est aussi la plus inattendue. Cette chanteuse, c'est Oum Kalsoum. Lorsqu'elle chante ses hymnes à la révolution, le monde arabe tout entier entre en transe.
La voix d'Oum Kalsoum ne cesse de s'élever au-dessus des divisions de ce monde arabe suspendu à ses lèvres. Partout, elle est reçue comme un chef d'État. Au Koweït, on l'asperge de parfums. Au Soudan, toutes les filles nées pendant sa visite porteront son nom. Et le fils du roi de l'Arabie Saoudite, le prince Abdallah El Fessal, compose pour elle. À Tunis, on étend à ses pieds un tapis de 300 000 œillets.
À Tunis, justement, précisément en 1968, un an après l'Olympia, mais mieux qu'à l'Olympia, elle a chanté cette chanson fameuse, Les Ruines.
«
Je vous laisse le plaisir de traduire, Frédéric Lagrange.
Donne-moi ma liberté, délie mes mains. C'est une chanson qui commence par être une chanson d'amour.
J'ai tout donné, je n'ai rien gardé pour moi. Pourquoi devrais-je rester fidèle à tes promesses alors que tu ne me respectes pas ? C'est peut-être là que ça bascule.
Cela bascule parce que c'est une chanson qui est prise en fait d'un diwan, d'un recueil de poèmes qui a été publié avant 1966. Elle sélectionne des vers en 1966 avec son compositeur Sombati. C'est une chanson qui est conçue comme une chanson d'amour. Après la défaite de 1967, les mêmes termes vont prendre soudain une coloration, une dimension politique tout à fait extraordinaire. Et ce « donne-moi ma liberté », ce « délit mes mains », ces poignets ensanglantés, ce cri, ce désir, cette nécessité de liberté pour un monde qui se considère et qui se vit comme humilié, deviendra un ralliement du golfe à l'océan. Et Oum Kalsoum prend dans cette chanson une dimension tout à fait mythique. C'est sans doute un des sommets de la carrière d'Oum Kalsoum tardif dans les années 1960.
Elle fait entendre, après la défaite de 67, ce chant un peu partout. Jusqu'en Union soviétique ?
Elle aurait dû chanter en Union soviétique en 1970. Les affiches sont présentes à Moscou. Elle se prépare au concert et c'est la mort de Gamal Abdel Nasser. Elle est effondrée, elle annule son concert, elle rentre rapidement au Caire et le concert suivant sera en décembre où elle pleurera en plein concert.
Parce qu'en Union soviétique, entendre « Donne-moi ma liberté, dénoue mes mains », ça aurait peut-être eu un certain écho imprévisible pour Oum Kalsoum. Et pourquoi n'a-t-elle pas davantage chanté hors du monde arabe ? Vous vous dites, Frédéric Lagrange, c'est parce qu'on ne l'attendait pas dans le monde occidental.
J'ai l'impression que le concert d'Oum Kalsoum en 1967 à Paris marque en quelque sorte le début de l'intérêt pour les musiques du monde en Occident. Ultérieurement, il y aura les concerts de Abd al-Halim Hafez à l'Albert Hall à Londres. Il y aura d'autres concerts des grandes vedettes du monde arabe. Mais Oum Kalsoum ouvre la voie et il me semble que cet intérêt est d'abord venu par le biais de la politique. Il a fallu que ce soit un mythe, il a fallu que ce soit une pyramide qui ouvre cette voie.
1975, elle disparaît, son enterrement a lieu dans un grand concours de peuple, dans une émotion collective comme on est parfois habitué à le voir au Caire.
Ils étaient venus de partout, de Haute-Égypte et du delta du Nil, d'autres pays arabes aussi par charter entier, pour saluer celles qui avaient su dire leurs résignations ou leurs révoltes, celle dont le président Sadat disait « Elle a fait couler nos larmes lorsque nous avions besoin de pleurer ».
Dominique Baudis, dont l'épouse a d'ailleurs consacré un livre à Oum Kalsoum. Alors cette phrase « Elle a fait couler nos larmes quand nous avions besoin de pleurer », elle est bienvenue dans la bouche du président Sadat qui, en même temps, voulait peut-être faire oublier certains aspects du nassérisme en laissant un peu de côté Oum Kalsoum.
Oum Kalsoum est une pyramide lorsque Sadat vient au pouvoir, c'est-à-dire qu'elle est sans doute inamovible, mais il ne lui réserve pas les mêmes égards que Nasser lui aurait réservé, d'autant plus qu'il y a une sorte de bataille sourde qui se livre entre Jihan Sadat, la femme, l'épouse de Sadat, et Oum Kalsoum pour être la première dame d'Égypte. Fondamentalement, Oum Kalsoum se vit comme première dame d'Égypte. Il y a une anecdote célèbre où elle appelle Sadat de son petit surnom devant la femme, devant Jihan, qui la reprend aussitôt d'un air courroucé en lui disant « C'est Monsieur le Président ».
Monsieur le Président n'assiste pas d'ailleurs aux obsèques. Cette émission a été préparée par Céline Loriou, avec à la technique Loïc Frapsos. Merci à vous, Frédéric Lagrange. Et la réalisation, c'était Jacques Sigal.
À demain, Jean Lebrun. Et dans quelques instants, sur France Inter, vous retrouverez Mathieu Vidard. Il est 14h.